Le débat du jour. Nathanaël Vitran.
Glyphosate, trois syllabes, formule chimique C3H8NO5P, breveté en 1974 par l'entreprise Monsanto qui lui donne le nom de Roundup. Voilà pour l'état civil, le glyphosate est un herbicide, c'est même le plus utilisé dans le monde. Depuis peu, le mot n'est plus seulement familier des chimistes ou des agriculteurs et il s'est imposé dans le débat public. C'est que le Centre international de recherche sur le cancer, qui dépend de l'Organisation mondiale de la santé, le considère depuis 2015 comme probablement cancérigène. En Europe, la licence d'autorisation du produit expire le 15 décembre. Alors au nom du principe de précaution et de santé publique, faut-il interdire le glyphosate purement et simplement? Faut-il donner du temps aux agriculteurs d'adapter leur mode de production? Et si oui, combien de temps? C'est notre débat du jour. Soyez les bienvenus. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir en studio Nicole Ouvrard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef d'AgraPresse, c'est une agence d'information indépendante consacrée à l'actualité agroéconomique. Et Nicole Ouvrard, vous êtes également présidente de l'Association française des journalistes agricoles. Face à vous, Karine Jacquemart, bonsoir.
Bonsoir.
Karine Jacquemart, vous êtes directrice générale de Foodwatch France, une organisation politique de défense des droits du consommateur. C'est comme ça que vous vous définissez. Merci à toutes les deux d'être avec nous. Avant de rentrer dans le vif du débat, on va peut-être expliquer à nos auditeurs qui ne sont pas tous familiers avec le sujet. Le glyphosate est donc un produit chimique utilisé comme herbicide. Qu'est-ce qui en fait aujourd'hui l'herbicide le plus utilisé au monde, Nicole Ouvrard?
Alors, d'abord, je vais juste expliquer en quoi consiste ce produit et qu'est-ce qui fait son originalité. C'est un herbicide qu'on appelle qui non sélectif, c'est-à-dire qu'il le détruit toutes les mauvaises herbes qui sont à son contact, d'une part. Et pourquoi? C'est parce que il a un fonctionnement qui est particulier. Quand on traite une plante, il a la capacité, la molécule a la capacité de migrer du haut de la plante vers le bas, c'est-à-dire jusqu'aux racines. Donc, quand une plante est traitée, elle est détruite de haut en bas, y compris les racines. Et ça lui permet de détruire des plantes du type vivace, ce qu'on appelle les vivaces, c'est-à-dire les chardons, les chiens dents, etc. Et avant que les OGM existent, ce produit-là était surtout utilisé pour ça. Et je dirais que dans l'Union européenne, où les OGM sont quasiment pas présents, mis à part en Espagne, on l'utilise encore surtout pour ça, c'est-à-dire traiter les zones où on a des plantes vivaces dont on ne sait pas se débarrasser, d'une part.
Je vois par exemple, il y a une carte qui a été faite par l'AFP où on voit qu'il est très très vendu dans les parties de l'ouest de la France, grosso modo. Ce sont des zones agricoles particulières, ça correspond à des productions particulières qui ont plus besoin que d'autres de glyphosate, d'herbicides.
Alors, en fait, j'allais finir, effectivement, l'utilisation qui en est faite aujourd'hui beaucoup en France, c'est le fait de l'utiliser entre deux récoltes, de façon à, on va dire, nettoyer le sol. Ou alors, quand on implante un couvert végétal, alors le couvert végétal, c'est une culture de, enfin, ce sont des plantes qu'on implante mais qu'on ne va pas récolter, qui servent uniquement à couvrir le sol de façon à éviter l'érosion ou de façon à éviter que l'azote qui est dans le sol parte dans les cours d'eau. Et donc on met un couvert de façon à pomper l'azote et à le retenir, à créer de la biomasse et à ne pas polluer, en fait. Et donc on utilise là aussi le glyphosate. À la fin de cette production, on détruit le couvert avec du glyphosate. Ça, c'est une autre utilisation. Et en fait, ces pratiques sont surtout développées, peut-être davantage développées dans l'ouest de la France. Mais voilà, ce sont ça les utilisations surtout en France.
Karine Jacquemart, je le disais en introduction, l'Organisation mondiale de la santé considère le glyphosate comme probablement cancérigène. Probablement, c'est le mot important ici. Il n'y a pas de certitude sur le sujet?
Alors c'est quand même la catégorie de l'Organisation mondiale de la santé juste avant cancérigène de façon confirmée, quoi. Donc c'est très sérieux et au regard du principe de précaution, vous le mentionnez, qui fait partie de la législation européenne et de la Constitution française, cette catégorie suffit largement à activer le principe de précaution et à se dire, eh bien, d'un point de vue de la santé publique, prenons des mesures pour ne plus exposer les populations et les agriculteurs qui sont les premiers exposés à ce type de substances toxiques.
J'allais y venir, les consommateurs ne sont pas les seuls concernés, Nicole Ouvrard, les agriculteurs aussi sont en contact avec ce produit, c'est pas aussi dans leur intérêt cette interdiction?
En fait, d'une part, les agriculteurs sont, on va dire, habitués à utiliser des produits phytosanitaires. Et autant, je dirais, il y a quelques dizaines d'années, ils ne prenaient pas de précautions, autant aujourd'hui, ce message-là a été beaucoup plus intégré. Ils ont aujourd'hui, maintenant, il y a une formation en fait obligatoire et un diplôme qui s'appelle le certi phyto obligatoire, avec une sensibilisation autour de ces questions de la protection de l'agriculteur. Et je dirais qu'ils prennent aujourd'hui le même soin, quels que soient les produits, pour se protéger. Alors je dis pas que c'est parfait, hein, parce que déjà il faut mettre des gants, il faudrait en fait, pour se protéger complètement, il faudrait sortir en cosmonaute. Le problème, c'est que ça fait peur aux voisins, donc il y a aussi cette difficulté. On se protège, mais en se protégeant, il y a le regard du public, donc c'est quelque chose d'un peu compliqué. Mais quels que soient les produits phyto aujourd'hui, les agriculteurs savent qu'il y a un danger, que ce sont des produits dont il faut se prémunir.
Karine Jacquemart, que répondez-vous à cela, le fait que les agriculteurs se protègent aujourd'hui suffisamment?
Enfin, ce qu'il faut, c'est réinventer une agriculture où les agriculteurs n'ont pas besoin d'être en cosmonaute pour produire l'alimentation dont on a tous besoin. Donc vraiment, ce qu'il faut, c'est remettre en priorité la question de santé publique. Et le glyphosate n'en est qu'un exemple, parce que c'est une des substances utilisées aujourd'hui dans l'agriculture, mais il y en a évidemment plein d'autres. L'angle, nous, qui nous paraît intéressant, c'est de regarder la question de santé et de contamination de l'alimentation. Aujourd'hui, on fait face à une épidémie de maladies chroniques, dont les cancers. Ce mot épidémie, c'est l'Organisation mondiale de la santé qui le mentionne. Et une des raisons, c'est la contamination de notre alimentation par les pesticides, mais aussi les perturbateurs endocriniens et beaucoup d'autres contaminants et sujets dont il faut qu'on parle et dont on parle pendant les états généraux de l'alimentation. On espère qu'il y aura des résultats. Donc, il est urgent d'éliminer les produits autant que l'on peut, de réduire l'exposition des populations, agriculteurs et citoyens autant que l'on peut. Et là, on a une occasion, puisque le glyphosate, son autorisation en Europe, arrive à échéance. Elle arrivait déjà à échéance en 2015. On a prolongé. Là, on doit se repositionner. Saisissons cette opportunité de devoir se positionner sur le glyphosate pour avoir un acte politique qui dit sur le glyphosate, on arrête et sur les autres substances, on devrait revérifier qu'il y a bien des études indépendantes sur la toxicologie et réétudier l'ensemble des substances utilisées.
Alors avant de continuer, je voudrais qu'on écoute un échange entre Nicolas Hulot, ministre de l'Environnement, et des agriculteurs qui étaient venus manifester leur mécontentement. C'était fin septembre.
Moi, je ne veux prendre aucun risque avec la santé. Je ne suis pas scientifique. Donc, je ne vais pas affirmer des choses simplement de ma boule de cristal. Simplement, je ne veux pas me retrouver dans quelques années, ni vous, ni moi, ni vos responsables, devant la justice, parce que nous aurons su des choses et qu'on n'a pas pris nos responsabilités. Qu'on arrête d'être dans une écologie qui est punitive, dogmatique. On en a marre. Croyez bien que tous les paysans qui sont là et tous les présidents de la France veulent avancer, parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une attente des concitoyens qui est forte. On se laisse 10 ans pour se dire, voilà, dans 10 ans, on aura trouvé des solutions.
Alors Catherine Jacquemart, ça soulève deux questions. D'abord, vous trouvez que le gouvernement français, comme le dit Nicolas Hulot, prend ses responsabilités sur ce sujet?
Alors on attend de voir. Là, le gouvernement français, cette semaine, en effet, a voté contre la proposition de la Commission européenne de prolonger le glyphosate pour 10 ans. C'est une bonne décision, puisque pour nous, chaque jour est un jour de trop quant au moment de prendre cette décision. Là, il y a une réunion le 9 novembre. On attend de voir quelle sera la décision de la France. J'ai entendu
européenne propose désormais
5 ans.
Ans.
Ah oui, et puis il faut voir le vocabulaire. La Commission européenne propose 5 ans et j'ai entendu le gouvernement dire un renouvellement de 4 ans, on pourrait accepter. Mais attention, parce qu'un renouvellement, ce que ça veut dire techniquement, c'est reporter la décision. Or, même quand une décision sera prise de dire on va interdire le glyphosate, il y aura de toute façon par les textes un temps d'adaptation et même des temps qui peuvent être adaptés selon les États membres. Donc nous, ce que l'on demande, c'est que la décision soit prise tout de suite d'interdire le glyphosate, qu'il y ait un plan d'accompagnement, qu'il y ait une transition de sortie, elle sera à discuter. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est reporter une nouvelle fois la décision. Donc un renouvellement ne serait pas acceptable, car ce serait un recul. On refuserait de prendre le courage politique de prendre une décision sur cette question.
Nicole Ouvrard, on a aussi entendu un agriculteur très inquiet qui dit on est prêt à faire ces changements, il nous faut du temps. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de se passer de glyphosate pour les agriculteurs français aujourd'hui?
Aujourd'hui, on s'oriente le gouvernement précédent a beaucoup travaillé là-dessus, Stéphane Le Foll notamment, a beaucoup œuvré pour enclencher ce qu'on appelle l'agroécologie, l'agriculture de conservation, enfin l'idée...
Une transition dans le modèle agricole.
Une transition dans le modèle agricole qui va justement, ce que je disais tout à l'heure, vers une plus grande couverture des sols. L'idée, c'est vraiment de couvrir les sols au maximum et toute l'année, de façon à créer de la biomasse et cette biomasse la réintégrer au sol et donc stocker du carbone.
Et pour ça, on a besoin de glyphosate, c'est ce que vous nous expliquez tout à l'heure.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire sans. On peut faire sans, mais ce sont des techniques qui sont complexes parce que le climat ne va pas toujours, etc. Et on utilise le glyphosate en sécurité. On sait que si on est envahi de mauvaises herbes, si on se plante, on a cette solution du glyphosate. Donc le risque, en fait, c'est que il y a une vraie nécessité d'aller vers l'agroécologie, ça on le sait, et ça s'accompagne effectivement par un allongement des rotations, par des techniques et en fait un moindre labour. Donc moins faire appel au labour, ça veut dire
moins retourner le sol.
Moins retourner le sol.
En quoi est-ce que c'est plus écologique de moins retourner le sol ?
Eh bien parce que à chaque fois qu'on retourne le sol, on consomme du carbone en gros. Et en fait, on casse la structure du sol et du coup, on relance ce qu'on appelle la minéralisation du sol, c'est-à-dire qu'on crée de l'azote qui est lié à la biomasse du sol et il y a un risque de fuite d'azote. Donc cette idée, elle est de ne plus labourer et pour ça, ce sont des techniques qu'il faut réapprendre parce qu'en fait, ça fait je sais pas combien, plusieurs siècles qu'on laboure le sol et on laboure le sol pour désherber. Enfin, c'est d'abord pour garder les sols propres. Donc vous voyez, c'est toute une nouvelle approche à avoir et là le glyphosate était une sécurité.
Quelles sont les solutions alternatives, Karine Jacquemart?
Il y en a plusieurs. Alors d'abord, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui effectivement n'utilisent pas du tout d'herbicides de synthèse. Donc
oui,
c'est
même
possible.
En conventionnel, hein,
voilà,
oui,
même en conventionnel, oui, il y a des agriculteurs qui ne sont pas forcément bio, mais qui travaillent une agriculture avec peu d'intrants. Donc c'est possible. Il y a des outils comme effectivement les RC-tri, etc. Donc on sait que les techniques dans l'absolu elles existent, mais surtout moi je crois vraiment à la volonté à la fois politique, citoyenne et des agriculteurs. Et je pense que pour discuter beaucoup avec les agriculteurs, évidemment eux non plus n'ont pas envie ni de polluer l'environnement, ni de se polluer eux-mêmes, ni de polluer les gens. Donc si on prend la décision politique de dire eh bien passons-nous maintenant, nous interdisons cette substance et nous regardons aussi l'ensemble des autres substances utilisées, il est évident qu'il faut que ce soit accompagné d'investissements pour des alternatives. Mais si on se dit on va s'en passer, on les trouvera, les alternatives. Certaines existent, d'autres on en trouvera certainement, mais ne restons pas dans un cercle vicieux qui consisterait à dire on s'est rendu dépendant d'une agriculture qui dépend de cette chimie-là, mais en fait elle est dangereuse, mais on va continuer quand même parce qu'on s'est rendu dépendant. Ça, c'est pas acceptable.
Il y en a une qui est d'accord avec vous, c'est Ségolène Royal, on va l'écouter.
Si la France, qui a reçu la COP21, qui est exemplaire dans le domaine environnemental par ses lois, dit tout d'un coup, ben non, on passe de l'opposition à l'autorisation, même sur une durée très courte, je pense que c'est un très mauvais signal et que les pollueurs chimiques vont en profiter. Donc à chaque fois, on nous fait la même histoire.
Donc l'industrie,
c'est-à-dire, attendez encore, on me l'a fait sur les sacs plastiques. Ah non, on n'est pas prêt, il n'y a pas de produit alternatif. Du jour au lendemain, où ça a été interdit, du jour au lendemain, les sacs en plastique biodégradable ont été mis sur le marché.
Nicole Ouvrard, Karine Jacquemart le rappelait, on le savait depuis longtemps que la licence allait expirer le 15 décembre de cette année. Il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été préparées entre-temps ?
Il y a une réflexion qui est déjà engagée. C'est vrai, c'est évident parce que...
On ne s'est pas rendu compte il y a deux semaines, oh là là, dans deux mois on va...
Oui, mais bon, il faut quand même bien voir que on va trouver des solutions. Quand j'ai démarré ma carrière dans les années 90, il y avait une technique qui était en développement à l'époque, qui était du brûlage thermique. Le principe, en fait, c'était justement sur un couvert, on envoyait de la vapeur brûlante pour détruire les couverts. Bon, à l'époque, ça n'a pas marché parce que le gaz était trop cher. Donc, ça s'est arrêté assez vite, en fait. Et évidemment, de toute façon, quoi qu'il arrive, la technique la moins chère, c'est la technique avec des produits phytosanitaires, surtout le glyphosate qui est tombé dans le domaine public et qui coûte rien, enfin quelques euros. Donc il y aura des solutions sans doute moins confortables, sans doute plus complexes, mais on en trouvera. Il faut un peu de temps parce que derrière, ce que vous parliez...
Justement, il faut un peu de temps, ça change quoi? On discute d'une prolongation de cette autorisation pour 3, 5, 4, 7 ans, 10 ans. Qu'est-ce que ça change, ces périodes? Qu'est-ce qui change entre 3 ans de transition, d'accompagnement et 10 ans d'accompagnement?
La difficulté en agriculture, c'est que pour mettre au point une technique et se rendre compte ce que ça donne, il faut un an. Parce qu'il n'y a qu'une récolte par an. Donc, c'est pour ça que c'est lent. On ne peut pas se mettre sous serre et puis tenter des choses au niveau du matériel, notamment parce qu'on va aller, notamment, sans doute beaucoup, vers des techniques de travail du sol ou de destruction. Par exemple, le roulage pour détruire les couverts dont je parlais. On utilise aujourd'hui des rouleaux qui sont agressifs, on va dire. Mais pour ça, il faut qu'il y ait du gel. Donc quand il n'y a pas de gel, ça marche moins bien. Enfin, vous voyez, chaque fois, chaque année, selon les conditions, le climat, etc., il y a des choses qui changent. C'est pour ça, en fait, qu'il faut du temps pour mettre au point des techniques.
Karine Jacquemart, à l'échelle de l'agriculture française et européenne, là, on débat, la France met la ligne rouge à 4 ans, la Commission à 5 ans. Qu'est-ce que ça change pour vous?
C'est pas pour nous, là, c'est pour l'intérêt général et vraiment les questions de santé publique. J'ai même pas abordé les questions de biodiversité qui sont évidemment un sujet aussi, mais Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, il y a quelques jours expliquait les pistes pour combler le déficit de la sécurité sociale. Encore une fois, je crois qu'il faut regarder le coût social et de santé de ces maladies chroniques et des cancers qui ont plusieurs sources, hein. Je ne dis pas qu'il y a que le glyphosate, mais ce genre de substance est identifié par les scientifiques comme une des substances qui contribue à la contamination de notre environnement, de notre alimentation. Le coût de la santé environnementale et des maladies qui y sont liées, ce sont des milliards d'euros par an. C'est l'administration, le ministère des Finances qui le dit. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut interdire cette substance maintenant. Et vous verrez que les solutions sont là. Ce que disait Ségolène Royal est tout à fait juste. Prenant la décision, vous verrez que les solutions sont là. Et les agriculteurs ne doivent pas être les victimes d'une décision politique qui n'a fait que trop tarder. Donc, qu'il y ait des mesures d'accompagnement des agriculteurs, ça me paraît essentiel. Mais le fait qu'il y ait besoin de mesures d'accompagnement ne doit pas être un prétexte à reporter la décision. La décision doit être prise maintenant pour un impératif de santé publique.
Mais quel délai vous voulez accorder aux agriculteurs pour s'adapter ?
Ça, après, c'est un plan, si vous voulez, d'accompagnement des agriculteurs. Moi, je suis pas là pour en déterminer. En revanche, en tant qu'association qui représente les intérêts des consommateurs et des citoyens, et s'associe beaucoup d'autres associations. Nous étions 34 organisations de la société civile à avoir envoyé une lettre ouverte à Emmanuel Macron il y a quelques jours. Ce que je peux vous dire, c'est que nous ne voulons accorder aucun délai. Nous voulons que politiquement, il soit inscrit et ancré, que cela s'arrête. Ensuite, qu'il y ait un accompagnement de sortie. Encore une fois, c'est une mesure d'accompagnement, mais la décision, elle, doit être prise une fois pour toutes. D'autant plus qu'elle devait déjà être prise en 2015. Donc ça, il n'y a rien de brutal, là. On est déjà en retard.
Nicolas, vous vouliez réagir, il nous reste moins d'une minute.
Oui, ce que je voulais dire, c'est que la grande difficulté, quand même, c'est que l'Union européenne, qui était quand même, on va dire, en quantité par hectare, la moins consommatrice de glyphosate, est quand même dans un marché ouvert... De glyphosate, hein, je dis. Elle est dans un marché.
Par rapport au marché mondial?
Par rapport au marché mondial. Toute l'Europe,
La production européenne par rapport à la production américaine, par exemple.
Par rapport à la production américaine, par rapport au Brésil, on importe tous ces produits, et notamment du soja, du colza, du blé, etc. Et alors, eux, par contre, ils sont largement traités au glyphosate. Parce qu'ils sont OGM. Et ça pose un problème. Parce qu'on est dans un monde ouvert, on signe le CETA, on importe. Et ça, c'est difficile. Parce que ça fait une concurrence compliquée à gérer pour les agriculteurs.
Pour les agriculteurs français. Merci beaucoup à toutes les deux. Nicole Ouvrard, présidente de l'Association française des journalistes agricoles. Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France. Merci également à Arthur Tossou et au service documentation de RFI pour leur aide dans la préparation de cette émission. À la réalisation, il y avait Nicolas Benito. Merci à lui aussi. Dès lundi, vous retrouverez Bruno Faure.